Good. Donc, on est dans Osée, on est au chapitre 2. On va lire les versets 16 à 25. Osée, chapitre 2, verset 16. Notre dernier message, considérant la miséricorde de Dieu, c'est le dernier dimanche de septembre. Et donc, on peut lire ici. On lit cette section au complet, versets 16 à 25. Tout le monde est là. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer en sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé, le moût et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'eau Rukama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Ah Seigneur, on a un beau passage devant les yeux, où est-ce que tu montres ta miséricorde envers ton peuple d'Israël, qui t'avait rejeté, qui avait les Baals dans leur bouche, et avait toutes sortes de choses dans leur cœur. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui délivre, le Dieu de miséricorde. Seigneur, on prie que tu te révèles à nous ce matin, comme étant ce Dieu de miséricorde. Révèle-toi à nos cœurs, Saint-Esprit, merci que tu es celui qui amène ces vérités à nos cœurs même, qui les éclaire à nos yeux, illumine les yeux de notre cœur, que le trésor de sa miséricorde devienne si précieux à chacun de nos yeux. On te prie, Seigneur, que tu diriges, que tu prennes ce temps pour toi, que tu te glorifies dans nos vies, que tu accomplisses ton œuvre dans chacune de nos vies ici ce matin. On te prie au nom de Jésus. Amen. Le passage qu'on vient de lire, on peut vraiment dire qu'il est au cœur du message du prophète. Le prophète avait un message pour Israël et c'était un message de miséricorde. Dieu faisait connaître sa miséricorde inconditionnelle envers Israël, son peuple. Mais c'est aussi un enseignement profond et un enseignement vraiment de base, fondamentale, pour montrer à Israël que la miséricorde de Dieu est quelque chose qu'il devait apprécier pour ensuite se l'approprier, donc l'apprécier de Dieu, se l'approprier, afin qu'ils puissent le reproduire. Dieu les appelle aussi à la miséricorde. Non seulement il leur montre la miséricorde, mais ils veulent que ça devienne quelque chose qu'ils puissent eux-mêmes donner aux autres. On va voir ça aujourd'hui à travers le livre. D'où d'ailleurs l'importante leçon d'objet. Vous savez, c'est quoi la leçon d'objet du livre d'Osée? Quand on pense à la leçon d'objet, on ne pense pas nécessairement à ça d'habitude, là, mais le mariage d'Osée, hein, qui marie une prostituée, puis tout ça, vous connaissez l'histoire, tout ça, c'est une image d'Israël, quoi, où est-ce que Dieu dit, c'est ça, on l'a vu ici, hein, il se présente comme son fiancé, puis bon, il y a eu infidélité, mais Dieu qui demeure fidèle. Avec ceci en tête, j'ai dit que ça, c'est au cœur du message du livre d'Osée. Voici, je pense, le verset que je crois qui est le verset clé de tout le livre et probablement au cœur du livre aussi, en plein milieu, chapitre 6, verset 6. Et vous allez reconnaître sûrement ce verset-là parce qu'il a été cité dans le Nouveau Testament, je vais vous dire où. Mais chapitre 6, verset 6, elle dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Savez-vous que Jésus lui-même, à deux reprises, dans le livre de Matthieu, a cité ce passage-là. Dans Matthieu 9, 13 et dans Matthieu 12, 7. OK? Et Matthieu, c'est l'évangile qui cible qui? Le peuple juif. Et Jésus, aux deux reprises, où est-ce qu'il a cité ça? Il s'adressait directement au leadership d'Israël. OK? C'est significatif. Parce que la nation au complet, mais tout particulièrement son leadership spirituel, était pris dans le piège des sacrifices vains, religieux. Il faisait plein de choses pour Dieu, mais il avait complètement le cœur éloigné de Dieu. Et ça, ça se montrait par leur manque de miséricorde. Pour ça, ils voyaient Jésus avec des gens de mauvaise vie, puis tout ça, puis « Ah, quel pécheur! » Puis tout ça, puis ils ne voyaient pas que ces gens-là étaient dans le besoin. Ils passaient à côté de la miséricorde de Dieu, et par le fait même, ils passaient à côté de Jésus-Christ lui-même, qui est la manifestation, l'incarnation même de la miséricorde de Dieu. Donc, ils passaient à côté du message d'oser que Jésus leur rappelait. Je vous le dis à deux reprises. Donc, dans le message aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder les cinq références au terme miséricorde dans le livre d'Osée. Puis on va en ressortir le sens dans le contexte où est-ce qu'ils sont utilisés. Tout ça dans le but de souligner le précieux enseignement de Dieu sur la miséricorde en son peuple. Dieu, comme il dit ici, Jésus leur a dit aussi, « Allez et apprenez. » Apprenez ce que ça veut dire. J'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est ce que Dieu voulait enseigner à son peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait, c'est le titre de mon message, qu'il soit un reflet de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, quand on apprécie la miséricorde de Dieu, qu'on se l'approprie, ensuite on peut en devenir un reflet en la reproduisant, en nous-mêmes devenant des canaux de cette miséricorde. Dieu est miséricordieux, puis il veut exercer sa miséricorde à travers son peuple. C'était ça le but de Dieu avec Israël, c'est ça encore le but de Dieu avec nous aujourd'hui. Et ce fameux mariage qui est au centre du message et du livre d'Osée, c'est vraiment ça, où est-ce que Osée lui-même, le prophète, devient un reflet. Hein? Imparfait, parce que c'est un humain, mais un reflet de la miséricorde de Dieu. Et vous vous rappelez, c'est quoi la miséricorde? C'est délivrer de sa condition misérable. Et c'est quoi? Cette femme-là était dans une condition misérable. En plus, les noms qu'ils ont eus, je ne sais pas si vous savez, c'était des noms prophétiques. Ce n'est pas des beaux noms. Donnez pas ces noms-là à vos enfants. Les TC, prenez pas les exemples. Parce qu'on l'a vu, hein? Il y en a un, son nom, c'est Lo-Rukama, ça veut dire « pas de miséricorde ». Ouais, mettons que c'est un peu ordinaire comme nom. Lo-Ami, Lo, c'est pas mon peuple, OK? Puis c'était significatif, Dieu avait un message avec ça. D'ailleurs, si vous faites la même affaire avec Ésaïe, prenez pas. En plus, c'est des noms vraiment durs à prononcer, là. Je connais juste Raymond Teachers qui se rappelle de ces noms-là. Ben, toi aussi, tu t'en rappelles? Wow!
J'ai eu une cour avec lui.
Ah, c'est ça! Mais c'est vraiment des méchants noms durs à prononcer. Mais ça avait des valeurs prophétiques aussi, puis c'était pas flatteur. Vous êtes dans chapitre 6, on a vu le verset 6. Regardez le verset 7. « Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. » Juste pour remarquer ici, Israël n'a pas transgressé l'alliance, été infidèle à Dieu en arrêtant d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Parce que dans le contexte, verset 6, hein, il dit « Je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. » puis qu'aux holocaustes, l'idée, et ça, la condition ici dans Osée a perduré jusqu'au temps que Jésus était sur terre, c'est qu'il avait brisé l'alliance par le manque de miséricorde. C'est pas parce qu'ils faisaient les sacrifices, les choses qu'ils étaient supposés de faire, c'est que leur cœur était complètement éloigné de Dieu, puis ils avaient perdu le cœur de Dieu dans ce qu'ils faisaient. Dieu est un Dieu de miséricorde, puis eux, ils étaient étrangers à ça. Ils prenaient plus plaisir à ça, c'était juste des choses qu'ils faisaient, puis ils étaient durs les uns envers les autres, au lieu d'avoir cette miséricorde. Et je vous dis, c'est parce qu'il y avait un manque d'appréciation de la miséricorde de Dieu. Et donc, ils ne se l'appropriaient pas. C'était pas pour eux. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas capables de communiquer. Ça, c'est mon message dans une coquille de noix. OK? J'aime ça dire ça, parce que ça ne se dit pas en français, mais Kevin, il comprend, lui. Puis on expliquera à Alejandro, je ne sais pas si ça se dit en espagnol, mais quand on dit en anglais « in a nutshell », c'est qu'on veut dire « on résume dans une pensée, à l'essentiel », c'est ça. Et savez-vous, parlons juste un peu, juste à une dernière chose en introduction. En ce moment, quelque chose qui détruit nos églises, c'est ce manque de miséricorde. Pas parce qu'on ne manque pas de faire des choses, puis tout ça, puis même, ah, ben on a des réunions, puis on peut faire ça. Mais si on n'a pas de la miséricorde les uns envers les autres, si on est là, puis on se déchire, comme ça dit dans Galates, les uns les autres, si on se mord les uns les autres, avec les œuvres de la chair, mes amis, on est dans une condition misérable dont Dieu doit nous délivrer. Et c'est tellement important. On prie pour l'unité spirituelle, que Dieu préserve l'unité spirituelle dans notre église, dans nos églises sœurs, parce que c'est un temps tellement propice où est-ce qu'il peut y avoir de la discorde, de la division. Mais il faut qu'on soit, comme ça dit, hein, Camille est en train d'apprendre ce passage-là, beau passage dans Colossiens, ça dit qu'on doit avoir des entrailles de miséricorde, puis les uns envers les autres, là, on doit se pardonner réciproquement, puis comme Christ nous a pardonné, on doit les uns envers les autres agir comme Christ a agi envers nous. Puis ils disent, ah, il est donc bien comme ça. Pensez à comment Dieu est patient avec vous autres. Ça vous nous aide d'être patient avec les autres, n'est-ce pas? Oh, moi, ça me ramène toujours, ça. Parce que je sais qui je suis. Je sais comment mon cœur est mauvais, puis méchant, puis comment Dieu est gracieux, puis bon. Ça m'aide à me calmer le pompon quand viennent les autres. Ou est-ce qu'ils peuvent des fois être un peu en dehors de ce que j'aurais voulu. Maintenant, on transgresse l'alliance quand on est comme ça. Le sang de Christ qui était versé pour nous, on fait un affront au sang de Christ qui est celui qui nous a réconciliés ensemble, celui qui fait de nous son corps racheté. Et donc, on ne veut pas briser ça. Regardez aussi chapitre 7, verset 10. « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Ils ne le cherchent pas malgré tout cela. » Mes amis, que ça ne soit pas dit de nous, Dieu nous envoie ces circonstances, ce virus, cette pandémie, que vous dites qu'elle soit fausse ou non, peu importe, c'est Dieu qui nous amène dans ces circonstances-là pour qu'on le cherche. Puis pas qu'on, dans notre orgueil, qu'on ne revienne pas à Dieu avec ça. Dieu nous appelle à lui. Puis quand Dieu nous appelle à lui, il nous appelle à sa miséricorde parce qu'il veut qu'on l'apprécie puis dire « Wow, Dieu, t'es bon, tu nous sors de notre condition misérable. » Puis mes amis, on est dans une condition misérable. Si notre cœur est froid par rapport à Dieu, par nos frères et sœurs, par rapport à ce monde qui périt, on est dans une condition misérable. Et Dieu est bon de nous délivrer, il nous délivre de nous-mêmes. N'est-ce pas vrai que la parole a une nouvelle fraîcheur, que la prière est d'une douceur qu'on apprécie d'une façon renouvelée en ce moment? C'est Dieu qui, dans sa miséricorde, est en train de nous délivrer, mes amis. Laissons pas passer à côté ce que Dieu est en train de faire. Et comme Jésus l'a dit au leadership d'Israël, allez et apprenez. Apprenez ce que ça veut dire. Dieu est en train de faire ça. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux envers nous, son peuple. Donc, on va regarder trois enseignements sur la miséricorde de Dieu à travers le livre d'Osée. D'abord, on les a lus dans le verset 21 et 22, les deux premières occurrences, ça se dit en français, une occurrence, oui, les deux premières occurrences du mot. Au verset 21, « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » La deuxième occurrence est au verset 25, « Je planterai pour moi l'eau Rukama dans le pays, je lui ferai miséricorde. » Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? La miséricorde inconditionnelle de Dieu. Évidemment, ici, c'est pas notre miséricorde, c'est vraiment c'est Dieu, puis l'image est forte, hein? C'était celle qui l'avait rejetée, qui voulait savoir, puis Dieu dit, moi, dans ta miséricorde, là, je vais te reprendre, je vais te restaurer, je vais complètement te délivrer de la situation misérable dans laquelle toi-même tu t'es mis, Israël. Et donc, ces versets, cette section du livre, nous enseigne la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Et ça, c'est la base de toute forme de miséricorde qu'il ne peut pas avoir. Okay? Si on peut avoir la miséricorde, c'est parce que Dieu a miséricorde envers nous autres. Sinon, on s'endurcit, on s'égare. Hein? N'est-ce pas que ça Ça me rappelle ça quand je vois dans Romains 1, là, mes amis, c'est pas flatteur sur la nature humaine. Tu sais, si on pense qu'on est une bonne personne, puis on est dans le monde comme une page blanche, puis que c'est le méchant monde qui nous rend mauvais, lisez Romains 1, vous allez voir que c'est pas le cas. Là. C'est pas du tout le cas. Dieu est la source de toute miséricorde. Voilà pourquoi ces premières deux références du livre qu'on vient de lire sont au début du livre, parce que Dieu veut établir le fait que sa miséricorde est inconditionnelle. On a l'histoire, ce qui arrive avec la femme d'Osée qui est prostituée, puis ça. Puis là, boum, Dieu dit, moi voici ce que je vais faire, voici comment je suis. Moi, je suis ce Dieu-là qui fait miséricorde demain. Dieu met le tableau comme ça. Il y a la laideur du péché, il y a la grandeur, la beauté de la miséricorde de Dieu. C'est ce que Dieu nous amène dès le début de la révélation qu'il a donnée à son prophète. Puis bien sûr, toute cette histoire, cette illustration, cette leçon d'objet du mariage est un fort appui à tout ça. Le fait que la miséricorde de Dieu est inconditionnelle. En fait, la miséricorde inconditionnelle de Dieu, c'est le message retentissant d'Osée et ce que Jésus-Christ a voulu faire résonner dans le cœur d'Israël et spécialement de son leadership lorsqu'il était sur terre. Mais malheureusement, c'est tombé dans des sourdes oreilles pour la majorité du peuple et encore plus même du leadership d'Israël. Sinon, il ne l'aurait pas crucifié. Mais notre appréciation de la miséricorde de Dieu, lorsque je me rends compte, Dieu, wow! Comment grande est ta miséricorde envers moi? Puis vous savez quoi? C'est l'état spirituel dans lequel on devrait tout être, parce qu'on est tous des êtres dans des conditions misérables qui ont désespérément besoin de la miséricorde de Dieu. Le problème, c'est pas parce qu'on l'a pas, c'est parce qu'on l'apprécie pas. Mais quand on l'apprécie, puis que là, par le Saint-Esprit nous révèle la grandeur de la miséricorde de Dieu envers nous, là, on l'apprécie, puis on devient reconnaissant, puis quand on chante la miséricorde de Dieu, ça résonne dans nos cœurs, c'est pas juste des mots qu'on dit avec notre bouche, on les chante de notre cœur. Ben, quand on arrive à ce point-là d'appréciation, on peut ensuite arriver à l'appropriation. Ah, Dieu, merci, tu as été miséricordieux envers moi. C'est ma vie, c'est mon secours, c'est ma paix, c'est ma sécurité, c'est ma joie. Dieu a été miséricordieux envers moi, il m'a délivré. Comprenez-vous? Lorsqu'on l'apprécie, ça nous aide à l'approprier. Et là, on va être capable, après ça, de la reproduire, de la communiquer aux autres. D'où l'importance capitale de se nourrir des paroles de Dieu, du Dieu de miséricorde. Nourrir notre foi. Parce que Dieu se révèle dans la Bible. Si vous avez lu les psaumes dernièrement, mon ami, s'il y a quelque chose qui revient souvent dans les psaumes, c'est bien Dieu qui est riche en miséricorde, riche en bonté, grand en miséricorde, riche en bonté. En tout cas, vous savez de quoi je parle, là? Ça revient souvent. La miséricorde de Dieu est beaucoup mise de l'avant dans les psaumes, entre autres. Donc, comment avoir un bon point de départ sur la miséricorde de Dieu? Dieu est le bon point de départ. Toute miséricorde émane de lui. La miséricorde inconditionnelle de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours au commencement de tout. Il doit l'être. Il l'est, puis il doit l'être dans nos vies. Si je veux avoir la miséricorde dans ma vie, il faut que je commence par apprécier sa miséricorde inconditionnelle. C'est là que ça commence. Là, je vais pouvoir répondre à ça. Là, Dieu va faire une œuvre. En partant, c'est lui qui a commencé, puis là, en répondant à ça, Dieu va faire une œuvre dans ma vie. Et là, si ça n'arrive pas, on arrive au bout sombre du livre d'Osée. Quand on avance, par exemple, au chapitre 4, on va lire les deux autres références, qui est notre deuxième enseignement sur la miséricorde. Le premier, c'est positif, c'est la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Mais le deuxième, c'est un reproche. Regardez chapitre 4, verset 1. « Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Regardez chapitre 6, verset 6. On l'a déjà lu, mais on va le relire. « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et ça, dans le contexte, c'est qu'il aime ça, puis c'est un reproche en voulant dire « Vous n'avez pas. Ce que je prends plaisir, c'est que vous ayez de la miséricorde, mais ce n'est pas ça que vous avez. » Donc, le deuxième enseignement, après que Dieu a mis de l'avant sa miséricorde inconditionnelle, il met de l'avant l'absence de la miséricorde chez l'homme. L'absence de la miséricorde chez l'homme. Ça l'abonde dans le sens, la miséricorde origine de Dieu. Okay? Il n'y a rien de bon dans l'homme. Si vous êtes ici et vous êtes un enfant de Dieu, c'est une doctrine fondamentale. La dépravité totale de l'homme. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon en nous. Ce qui peut avoir de bon, même chez les non-sauvés, ça vient de ce qu'on appelle la grâce commune. Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu et cette image n'a pas été complètement éradiquée puis il ne reste plus rien chez les non-sauvés. Dieu, dans sa grâce commune, peut laisser encore de la bonté, de la miséricorde, même chez les non-sauvés. OK? Mais c'est malgré eux. C'est pas à cause d'eux. C'est là, en ça aussi, c'est la bonté de Dieu. Mais toute miséricorde réelle, puissante, n'émane pas de notre propre nature, mais de la grâce de Dieu. OK? Et j'en ai glissé un mot dans mon dernier message. Je veux vous amener juste un point là-dessus. Mon dernier message, c'était pas la semaine passée, c'était l'autre d'avant, avec notre ami Lot, vous vous rappelez, Sodome et Gomorre. On assiste maintenant à un phénomène bien unique et puissant de division dans notre société, n'est-ce pas? Puis ça se voit au travail, ça se voit dans les familles, ça se voit dans les églises, OK? La division. Puis c'est pas le genre de... Tu sais, Jésus a dit, je suis venu amener, non pas la paix, mais l'épée, puis là, la division... c'est pas la division qui vient de l'Évangile de dire parce que je prêche l'Évangile, il y en a qui rejettent puis d'autres. Non, c'est une division qui vient du prince de ce monde. Puis c'est toute l'idée, c'est selon le train de ce monde que cette division. Ok? Puis rappelez-vous, j'avais dit, il y a comme deux clans qui émergent là, de tout ça. On peut dire d'un côté, il y a ceux qui croient, se plient, renforcent le narratif officiel de ce qu'on entend. Puis il n'y a pas juste la question sanitaire, et même aux États-Unis, peut-être plus à Montréal, peut-être plus à Grosville, toute la question raciale, puis vous savez, avec le Black Lives Matter, puis tout ça, OK? Fait qu'il y a un côté comme ça, OK? Où est-ce que... Puis on pourrait dire que ce côté est beaucoup caractérisé par Romains 1. Sans foi ni loi, tu sais, puis... L'autre côté... Ceux qui ne croient pas tout ce qui est nécessairement dit, qui ne veulent pas se plier, puis qui veulent même dénoncer le narratif en disant « Wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. » On pourrait dire que c'est un côté plus conservateur, OK? Qui dénonce, je pense, avec raison, tu sais, la tromperie, les injustices, la corruption, les abus. Puis même des choses qui peuvent être mortelles. Pensons, tu sais, Black Lives Matter, le mouvement, là, ça n'a pas aidé les Noirs. Il y a beaucoup de Noirs qui payent pour ça. Dans les villes aux États-Unis où est-ce qu'il y a eu le plus de saccage, c'est des Noirs qui sont là. C'est des... Bon. Puis les gens qui disent, ben ça marche pas, puis bon. Mais là, je veux attirer votre attention sur le point suivant. Les deux n'ont pas de... OK, puis je vais qualifier ce que je dis, mais les deux n'ont pas de référence primaire à Jésus-Christ. Le bord plus conservateur va plus parler de Dieu, la loi et l'ordre, puis OK, même des gens qui vont professer Christ là-dedans, puis tout ça. Mais les deux côtés, c'est... Selon la grande tromperie de ce monde, pour ça je dis c'est à l'origine de ce monde, c'est on peut se sauver nous-mêmes. On va se délivrer nous-mêmes. Voyez-vous le lien avec la miséricorde? La miséricorde, c'est Dieu qui délivre. Mais ces deux mouvements-là, que ce soit d'une façon ou de l'autre, les deux, c'est le même message. On va se délivrer nous-mêmes. Sauvons-nous nous-mêmes. Ou comme ils ont dit à Jésus quand il est venu sur terre, puis c'était tout au nom de Dieu, puis ça, puis il disait... Hosanna, Hoshiana, ça veut dire sauve maintenant. Quand il disait ça, parce que vous savez, c'est quand Jésus faisait son entrée triomphale, c'est lui-même qui l'avait orchestré, il descendait sur le dos d'un arbre, c'était tout prophétique et tout ça. Eux autres, là, ils voyaient le roi qui venait les débarrasser de Rome. Donc, quand il disait sauve maintenant, c'était tout terrestre. Ben, c'est ça que les deux mouvements font. Sauve maintenant, soit on veut plus de virus, on veut plus être malade, on veut plus ça, on veut plus de corruption, on veut plus okay, d'abus. Les deux, ça dit la même affaire. Les deux, c'est terrestre, c'est ici-bas. Puis le problème fondamental, c'est qu'ils mettent de côté la miséricorde de Dieu qui est manifestée pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance spirituelle. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait avoir aucune part avec ça. J'irais même jusqu'à dire qu'on devrait les condamner comme des œuvres infructueuses des ténèbres. Dans le sens que on peut pas se sauver nous-mêmes. Comment qu'on essaierait de sauver nous-mêmes? Qu'est-ce que Jésus a dit? Même si on sauvait le monde au complet, si on perd notre âme, c'est à quoi ça va donner? Il y a un sauveur, puis c'est Jésus-Christ. C'est pas Donald Trump non plus en passant. Il y en a qui pensent ça, hein, que lui, puis sa gang, puis peu importe. Pis... ces choses-là, ça monte, mes amis. Puis même, j'en ai un point important par rapport à ça. Faut reconnaître les choses. C'est pour ça que je médite en ce moment sur Romains 1. Mais aussi, vous pouvez aller voir dans Éphésiens 4. Quand ça parle de la pensée de l'homme irrégénéré, là, je veux dire, c'est l'obscurité, c'est la corruption. Pourquoi? Le centre de la vie des gens sans Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa délivrance, ce n'est pas le vrai côté spirituel, mais il y a un faux côté spirituel. OK? C'est-à-dire, nous, quand on parle de miséricorde, on pense à le salut des péchés, connaître la libération que Jésus donne, connaître ce que chacun ici qui est un enfant de Dieu a connu. Vous connaîtrez la vérité. La vérité va quoi? Vous affranchir. On connaît la liberté de nos propres cœurs, de nos propres pensées corrompues, OK? Nous, on pense à ça. Mais beaucoup de gens ici-bas, quand ils pensent à Dieu, ils pensent à Hosanna, Oshiana. Dieu va m'aider pour régler les choses ici-bas. Ils ne pensent pas à la miséricorde. C'est pas que Dieu se soucie pas. Dieu peut se... quand je dis, il faut que je qualifie, là, tu sais, Dieu peut faire des choses dans nos vies au quotidien, puis tout ça, puis c'est pas comme si Dieu, c'est juste au niveau spirituel qu'il peut agir. Mais au niveau de ce qu'on parle en ce moment, au niveau de la société, Dieu est bien plus intéressé en ce moment à sauver des âmes par l'évangile éternel que à régler des problèmes, puis que ça aille plus bien, puis qu'il n'y ait plus de virus, il n'y ait plus de corruption, puis tout ça. Et oui, il y a des pays qui sont caractérisés par la corruption depuis des années. Puis Jésus, son évangile éternel, il fait des percées là-bas, puis ça, c'est la volonté parfaite de Dieu, dans ces circonstances-là. Puis ces gens-là sont quand même dans l'oppression. Mais ils ont l'évangile qui les délivre de leurs conditions misérables. OK? Parce que je vous dis ça, parce qu'il y a une grande tromperie avec toutes ces affaires-là qui arrivent. Savez-vous qu'il y a des mouvements, là, surtout de ce côté-là, là, au niveau de la loi, et là, qui parle de grand réveil, qui parle de une délivrance qui s'en vient bientôt, puis tout ça. Pis, vous savez, tout ça, c'est des choses qui appartiennent à l'Antéchrist, puis tout ça. Il parle de lumière de Dieu, puis tout ça. Je vais jamais vous dire, mes amis, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Pis, vous irez voir vous-même, là. Vous n'allez pas trop voir pour rien, là. Vous pouvez passer des heures, puis perdre bien du temps sur Internet, mais dans le sens que... les gens parlent de réveil, puis ils parlent de Dieu qui va ci, puis ça, puis... t'as quand même comment des chrétiens tombent dans le panneau. Mais tout ça, c'est de la fausse lumière, de la fausse miséricorde, ou est-ce que c'est toute une délivrance terrestre qui n'a pas de portée éternelle? Comme je vous dis, il n'y a pas la centralité de Jésus-Christ. Et là, ici, je vais amener le point important. C'est une fausse sécurité. Et c'est selon une sagesse charnelle, terrestre, diabolique. Même si ça n'a pas l'air aussi nécessairement méchant que des mots comme j'utilise là. Pourquoi? N'est-ce pas qu'on dit que toute secte s'attaque à Jésus-Christ et c'est de l'hérésie? Mais c'est, oui, c'est pas juste dans les sectes. Parce qu'on dit, ah, les témoins de Jéhovah, ils renient la divinité de Jésus-Christ. Les catholiques, ils rajoutent à l'œuvre de Christ pour faire ci puis ça. Ah, c'est de l'hérésie. C'est vrai. Mais savez-vous que c'est vrai aussi dans les mouvements sociaux? Ou est-ce que, si on veut se sauver nous-mêmes, tu sais, s'il n'y a pas Jésus-Christ comme centre, c'est de l'hérésie. Puis on n'a pas, c'est pas notre royaume. C'est le royaume d'ici-bas. Notre délivrance, c'est selon le royaume de Dieu. Jésus, il n'aurait pas amené la délivrance physique comme ça. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, je serais né à mes serviteurs, puis ça serait réglé cette affaire-là. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'est pas venu comme étant le roi de ce monde. Satan a déjà volé ce royaume-là, puis bon, Dieu nous l'avait donné, on l'a perdu à la chute. Satan est le prince de ce monde. Puis on sait que Dieu est au-dessus de lui, puis tout ça, puis Dieu est au contrôle. Mais son royaume à Jésus n'est pas de ce monde. Et c'est pour ce royaume-là qu'on se bat, qu'on se tient. Et c'est là qu'on garde nos yeux, mes amis. Le royaume éternel, celui qui n'est pas de ce monde. La délivrance que seul Dieu peut apporter. Non, il n'y a pas de miséricorde dans l'homme. Elle est absente. L'homme ne peut pas amener la délivrance que juste Dieu peut amener. La vraie miséricorde origine de Dieu. Et l'homme a beau essayer, puis je vous dis, là, c'est ça, on voit même des gens sincères, puis avec des bonnes intentions, mais le salut vient de l'Éternel, mes amis. Il ne vient pas de personne d'autre. Maintenant, Ça amène au troisième et dernier enseignement sur la miséricorde dans Osée ce matin. Il est au chapitre 10, verset 12. C'est la troisième référence. Et peut-être que vous connaissez par cœur ce verset-là, peut-être que vous êtes familier avec. Des fois, quand on parle d'Osée, puis tu sais, des fois, il y a des versets qu'on connaît plus dans un livre. Bon, mais chapitre 6, verset 6, c'en est un. S'il y en a un deuxième, je dirais que c'est celui-ci. Chapitre 10, verset 12. « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. » Non seulement la miséricorde inconditionnelle de Dieu comme premier enseignement, le deuxième, la miséricorde absente chez l'homme. Ah, mais ici, on voit la miséricorde renouvelée par Dieu. Ce verset nous ramène Dieu au premier plan. Le livre ouvre avec la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Elle ferme avec celle que Dieu peut redonner. Dieu est la source de toute miséricorde. Et il nous ramène aussi à notre besoin d'une vie qui expérimente sa miséricorde, qui est centrée sur sa miséricorde. Et mes amis, s'il y a quelque chose à laquelle on doit s'affairer, vouer nos énergies, là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent demander de l'énergie, ne serait-ce que les choses du quotidien, mais on parlait de mouvements sociaux, puis on va-tu se donner là-dedans? Ce à quoi on doit vouer nos énergies, notre foi, notre confiance, c'est dire, Dieu, je veux être un instrument dans tes mains de miséricorde pour que tu opères la délivrance que juste toi peux opérer. C'est ça la miséricorde renouvelée. Dieu, tu as une miséricorde que personne d'autre peut donner. Tu es la source de toute vraie miséricorde. J'en ai pas en moi. Mais Dieu, par ta grâce, est-ce que tu peux faire de moi ton instrument de miséricorde pour amener la délivrance de Jésus-Christ dans ce monde désespéré et perdu? C'est le besoin de l'heure, mes amis. Notre besoin à nous et à ce monde, c'est d'expérimenter la miséricorde de Dieu. C'est ça le plus grand besoin. C'est pas de pas être malade, c'est pas de tout mettre les injustices sociales tout au droite puis au diapason. Non, c'est que Dieu exerce sa miséricorde et délivre ce monde et nous-mêmes de notre condition misérable. Je pense qu'on doit se rappeler de quelque chose d'important là-dessus. Pour être un instrument de miséricorde dans les mains de Dieu, faire attention. Ben, regarde, je vais d'abord vous lire Jacques. On l'a lu hier, Dieu a dirigé dans le temps de prière, on a lu ça. Jacques, chapitre 4, un passage excellent des Écritures. On parle beaucoup de combat spirituel, de lutte dans laquelle on est. Regardez ce que ça dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. » Et il vous élèvera. Regardez verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Car celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'es plus observateur, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Il y a un réel piège en ce moment où est-ce qu'on peut tomber là-dedans. C'est pourquoi on doit soumettre à Dieu, résister au diable. C'est le diable qui veut semer la discorde. Qu'on ne rentre pas là-dedans. Si on se soumet à Dieu, ça va être dans l'humilité. On va sentir notre propre misère. Puis on va arrêter d'être dur envers les autres. Puis on va dire, Dieu éclaire-les. Parce que quoi? Il y a des gens qui ont besoin de comprendre des affaires puis pas avoir peur puis être figé par la peur. Mais il ne faut pas qu'on commence à être dur les uns envers les autres puis qu'on parle mal les uns des autres puis qu'on juge les uns. Ça, c'est le travail du diable qui voudrait faire ça au milieu de nous autres. Il faut qu'on soumette à Dieu humblement, résister au diable qui va essayer de faire ça, puis le diable va fuir loin de nous. Il faut qu'on prie ça pour notre église, que ça dure, que ça perdure, puis pour nos autres églises. Mes amis, vraiment, ça a beaucoup affecté mon cœur. Dernièrement, j'ai entendu, mes amis, il y a des églises qui ont vraiment de la misère en ce moment. Il y a toutes sortes de discordes, puis tout ça, puis c'est comme si ça neutralise l'œuvre de Dieu. Il faut prier les uns pour les autres. pense que l'attitude fait une grande différence. Tu sais, l'attitude face à la différence. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, on s'assoyait, là, je parlais avec un frère là-dessus, puis on s'entend, les affaires, c'est simplement des opinions. Puis là, si on s'assoit, puis on veut tout discuter des opinions, mes amis, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire 250 000 en rond. On va aller nulle part. On tourne. À la fin, on va juste être étourdi, puis on n'aura pas été nulle part. Ça sert à rien. C'est pour ça que la Bible dit, discutez pas les opinions. J'arrête pas de vous donner des devoirs de lecture ce matin. Ça, c'est Romains 14. Si vous luttez avec ça, regardez Romains 14. Faut accueillir l'autre. Faut pas condamner l'autre. Faut s'accueillir les uns les autres. C'est ça, Romains 14. Mes amis, combien de situations épineuses dans lesquelles je me suis retrouvé des fois dans ma vie personnelle, dans l'église, des fois avec ma famille élargie, dans ma famille personnelle. Des situations épineuses. Où est-ce que la situation était bloquée? Tu sais, des fois, on arrive à des points, puis tu sais, ah, il comprend rien, puis il va jamais rien comprendre, puis l'autre dit la même affaire de toi, puis n'est-ce pas ce qui, en ce moment, ce qui arrive? Où est-ce qu'un dit un bord, puis l'autre? Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons tous en lui, à tous égards, dans notre chef qui est Christ. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de laisser Christ faire son œuvre. Et quoi, ça me dérange pas des fois de dire, OK, c'est pas grave, je vais laisser tomber ça, puis édifier mon frère, l'aider, puis que finalement, ça fait une différence. Pourquoi? Parce que notre condition la plus misérable, c'est pas ce qu'on vit en ce moment, puis qu'on a des problèmes. C'est quand on se met à avoir une attitude où est-ce qu'on se déchire les uns les autres. J'ai un frère bien-aimé qui est dans le ministère, puis il dit, man, dans mon église, ça brise mon cœur. Le problème, c'est pas les masques, c'est l'attitude avec le masque. C'est une gang qui est d'abord, puis l'autre, c'est la chicane pointe. Puis c'est ça qu'il me disait, c'est Romains 14. Tu sais, c'est l'attitude qu'on a. Puis si, humblement, on se rend compte, OK, le royaume de Dieu, là, hey, voulez-vous une belle citation modernisée de Romains 14? Là, ceux qui. Là, OK, c'est pas une version biblique reconnue, là. OK? Mais je vous lis Romains 14, version 2020. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, les masques, les mesures sanitaires, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on a besoin de vivre. Puis Dieu, il faut qu'il nous délivre d'être pogné dans des affaires où est-ce que ça nous empêche. Le royaume de Dieu, c'est les choses les plus importantes, la justice, la paix, la joie. Ou comme Jésus l'a dit, vous vous barrez les pieds dans ces choses de la loi qui sont là, mais vous négligez les plus importantes. Matthieu 23, 23. Hein, c'est par rapport à la dîme, rappelez-vous. Il dit, vous négligez. Puis il parle de miséricorde aussi là-dedans, dans Matthieu 23, 23, quand il parle aux pharisiens. Mes amis, ce que je veux amener, là, c'est que le livre d'Osée qu'on considère aujourd'hui, la miséricorde de Dieu, tout l'espoir qu'on voit là-dedans, c'est que Dieu est capable de restaurer des situations désespérées. Et on est ici ce matin, et notre situation la plus désespérée, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas qu'on a des problèmes. C'est pas que notre vie est plus comme avant puis on a perdu des libertés. Puis c'est bien plate ça, puis c'est pas agréable. C'est pas qu'on peut avoir un virus puis tout ça. Notre situation la plus désespérée, c'est quand on est apathique face à Dieu, quand on se complaît dans notre confort, puis qu'on est froid par rapport à Dieu, puis qu'on se divise. C'est ça la pire condition dont Dieu, lui seul, doit nous libérer, mes amis. Et n'est-ce pas une grande démonstration dans le livre d'Osée que Dieu peut transformer le mal en bien, puis que Dieu aussi, c'est ce qu'il peut faire, que ça soit à ça qu'on a affaire nos cœurs, mes amis, à ce que Dieu exerce sa miséricorde au milieu de nous autres. Et fasse des grandes choses pour sa gloire comme juste lui peut le faire. Je vous lis à ce sujet dans un psaume qui nous raconte, c'est un des psaumes historiques, vous savez, des psaumes qui font un retour sur l'histoire d'Israël puis qui tirent des leçons de ça. Je vous lis juste deux versets du psaume 106, versets 13 et 14. Ça parle d'Israël ici. « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins, mais ils furent saisis de convoitise dans le désert. » Et tentèrent Dieu dans la solitude. Et où est-ce que ça nous montre ça? Au verset 13, on voit de l'impatience. Ils furent saisis de convoitise, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres et n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils ne se sont pas attendus à Dieu. On dit, ah non, faut qu'il se passe quelque chose avec ça. Quand on est impatient comme ça, il peut demander à ma famille, je suis l'exemple de la vertu de la patience incarnée. L'impatience, c'est ça. Ah, ouais. Mais quand on se laisse comme ça, on oublie Dieu. Fait que, mes amis, il faut qu'on soit patient les uns avec les autres. Il faut qu'on soit patient avec les gens qui nous dérangent. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? On oublie Dieu. On devient tout pogné dans nos affaires qui nous dérangent, puis Dieu, pouf, il sort complètement de l'image. Ça, c'est dramatique. Ne sommes-nous pas les représentants de Dieu sur cette terre, le corps de Christ? Dieu ne nous a-t-il pas confié l'évangile du royaume, celui qui est réel, qui est éternel? Et donc, on ne tombe pas dans le piège de l'impatience puis d'oublier Dieu. Parce qu'en plus, quand on arrive là, là, ça fait une succion, ça crée une espèce de vide. Puis c'est pour ça qu'au verset 4, ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Quand on est dans l'impatience de même qu'on reste là, on va finir par pécher d'une façon ou d'une autre. Puis dans la situation qu'on parle en ce moment, on va souvent pécher les uns contre les autres. On a besoin de patience les uns vers les autres. Puis c'est quoi? On a besoin de la patience de Dieu envers nous. Ça s'appelle la miséricorde. Et voici ça avec quoi je veux terminer ce matin. À la lumière du verset qu'on a vu dans Osée le dernier, hein, c'est défricher un champ nouveau. Voici l'appel que je lance à la lumière de tout ça ce matin. Je vais le relire, puis ensuite, je vais vous donner l'appel. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous sa justice. Hein? Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Persévérons. Le verset que tu as cité. Car nous moissonnerons. Attends, comment ça commence donc? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est pas le temps de se relâcher, mes amis. Dieu encore fait miséricorde. Mais voyons là où il faut vraiment qu'il exerce miséricorde, là où est-ce que Dieu veut faire miséricorde. C'est pas dans ce que nous, souvent, on veut qu'il fasse. C'est dans l'attitude qu'on peut avoir, c'est dans les choses qui vraiment vont faire une différence pour lui. On n'est pas appelé à bâtir notre royaume ici-bas sur terre. On est appelé à bâtir le sien. Donc, s'il y en a ici qui sont non sauvés, avec l'expression « défrichez-vous un champ nouveau », c'est temps de rentrer dans la terre, dans le territoire de Dieu, par la foi. Et de semer la semence de la foi. Ce que vous entendez sur l'Évangile, sur Christ, sur lui qui est le seul sauveur, ajoutez-y foi. Et savez-vous c'est quoi défricher? C'est quand on enlève les affaires qui n'ont pas d'affaires là. Enlevez les obstacles du doute, de la peur, de l'indifférence qui peuvent être dans votre cœur pour pouvoir semer la semence de la parole de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, il y a une belle image que j'aime dans la Bible, c'est employé pour Israël, mais ça s'applique aussi pour nous. La vigne, on voit ça dans Ésaïe, Jésus quand il parle dans Jean 15, on prend ça pour nous, puis oui, on le fait bien, mais c'est aussi, il parle des Juifs, quand il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Hein? Ça, c'est une vigne, c'est l'image de la vie de Christ, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et là, qu'est-ce qu'il dit après? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le temps de planter dans le champ de Dieu. C'est le temps de laisser la vie de Christ vivre à travers nous. Ce dont ce monde a besoin, c'est pas des gens qui n'ont pas de maladie et qui n'ont pas de problème. C'est pas des révolutionnaires qui vont tout amener la justice dans ce monde. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Puis la justice qu'il va amener, ça va être trompeur, ça va être celle de l'antéchrist, puis ça va amener une fausse paix. Puis c'est toute la tromperie. Il n'y a pas de délivrance en Sodome et Gomorre. On a vu ça, n'est-ce pas? Non, on est ici pour le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu est un Dieu de miséricorde. Et donc, qu'on soit motivé avec ce qui motive Dieu. Si on est de sa ressemble dans nos prières ces temps-ci, si on est encore sur terre, c'est parce que Dieu fait encore miséricorde. C'est parce que Dieu veut encore sauver. Veut nous sauver nous-mêmes de nos conditions misérables puis se servir de nous lorsque on apprécie sa miséricorde, qu'on se l'approprie. Là, on peut devenir des instruments dans les mains de Dieu qui communiquent cette miséricorde. On demande à Dieu qu'il fasse ça dans nos vies. C'est ça le plus important, mes amis. Ne perdons pas les yeux de sur l'essentiel. Que le peuple de Dieu ne se laisse pas tromper, mais qu'on garde les yeux sur celui qui vraiment nous appelle à son œuvre. N'est-ce pas, on a vu qu'on a la parole de Dieu? On s'égarerait, n'est-ce pas? Mais Dieu nous ramène toujours à l'essentiel, à lui-même. On va prier. Merci, Seigneur, parce que t'es pas menteur, que tout homme soit connu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Ce monde essaie de se sauver lui-même. C'est la grande conspiration de tous les âges. Sauvons-nous nous-mêmes. Hosanna, le salut maintenant, terrestre, ici. Mais Seigneur, c'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à ton royaume éternel de lumière. Et à proclamer ce royaume. Merci Seigneur que tu nous as fait miséricorde, ceux ici qui sont tes enfants. Et s'il y en a qui n'ont pas encore goûté comment tu es bon, en goûtant, expérimentant pour eux-mêmes ton salut, on te prie aujourd'hui que tu étendes ta miséricorde sur leur vie. Qu'ils soient ici présents ou qu'ils ne soient pas ici aujourd'hui, Seigneur, sauve ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et pour nous, tes enfants, ah, comme on te remercie d'avoir eu pitié de nous autres, miséricorde, de nous avoir délivrés de nous-mêmes, de la fosse éternelle qu'on creusait nous-mêmes. Ah, Seigneur, qu'on ait une appréciation renouvelée de ta grande miséricorde envers nous, qu'on se l'approprie, que ça devienne nôtre, que ça soit précieux, que ça soit notre trésor qu'on chérit. Et que ça déborde de nos cœurs, que ça ressorte, qu'il y ait sur nos lèvres des sacrifices de louange. Le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Ton nom qui est plein de miséricorde. Merci Seigneur pour ça. Bénis ce temps de prière, Seigneur, la réponse de ton peuple à ce que tu viens de nous dire ce matin. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever.